Je sais pas si vous, il y en a qui ont déjà vu la série des films sur le Hobbit. Qui a vu ces films-là? Plusieurs d'entre vous quand même, oui. Puis, une des scènes qui me fait tellement rire, puis qui est frappante, qui est tellement bien faite, c'est lorsque Bilbon, le Hobbit, traverse une forêt dangereuse avec les 12 nains là, qui sont à la recherche de leur pays natal. Puis ils tombent dans des pièges de gros araignées, puis tout ça. Puis c'est vraiment menaçant, puis ils se perdent, puis c'est comme... En tout cas, puis Bilbon, lui, a l'idée de monter plus haut, puis il sort la tête sur le dessus de la canopée des arbres, puis il sort la tête, puis il voit, waouh, puis il respire, puis il voit qu'il y a du soleil, là. Puis il voit où ce qui s'en va, il voit la montagne, puis là, il crie en bas, hey, « Hé, les gars, je sais c'est dans quelle direction! » Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire à travers cette série-là de l'espérance. C'est de sortir la tête de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous embourbe dans la vie, tout ce qui nous écrase, qui est lourd, qui vient nous tirer vers le bas. Sortir la tête en dehors, puis dire, il y a quelque chose de plus beau qui s'en vient, puis je le vois, là, c'est là, ça s'en vient, c'est par là. D'avoir les regards sur ce qui s'en vient. Donc, pour ceux-là qui peut-être sont là avec nous pour la première visite, ou ça fait pas longtemps, on est dans depuis plusieurs semaines, de plusieurs mois même, dans une série qui s'intitule Qu'attends-tu de ton avenir? Et le verset thème de cette série-là est Romains 15, 13. Et on va le répéter ensemble encore, je tenais avec ça, hein? Mais j'espère que ça commence à rentrer dans votre tête puis à descendre dans votre cœur. Oui, amen, amen. On y va? Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Puis j'espère que vraiment, là, comme moi, cette série-là, j'espère que ça fait pour vous ce que ça a fait pour moi. C'est que je me rends compte de plus en plus de l'importance de l'espérance. C'est vraiment crucial. C'est vraiment crucial pour notre santé spirituelle. Et Paul dit, on n'a pas regardé ce passage-là, mais je l'ai cité quelquefois, c'est l'encre de notre âme. L'espérance, il dit, on a cette espérance-là comme un encre pour notre âme. C'est vraiment important, l'espérance. On a vu à travers la série a été divisée en trois parties. L'espérance d'un corps ressuscité, transformé, ça a été la première section. La deuxième section, l'espérance d'hériter d'un royaume. Et maintenant, on est dans la dernière section, l'espérance de se trouver pour toujours dans la présence glorieuse de Christ. La semaine dernière, le message était intitulé L'espérance, le déjà du pas encore. C'est-à-dire que Paul dit dans Colossiens 3, 1 à 4, recherchez, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les réalités d'en haut. Présentement, là, ce qui s'en vient, vous pouvez déjà commencer à le vivre. Et comment ça? C'est par les yeux spirituels de votre cœur que vous pouvez commencer à déjà vivre présentement ce qui est à venir. Paul dit dans Éphésiens, une prière, Éphésiens 1, voilà, si tu es en Christ, tu as déjà un lien réel avec le monde spirituel, les choses à venir. Paul prie pour les Éphésiens, puis ça, c'est une autre prière que j'ai mémorisée il y a quelques années, puis que je vous encourage vraiment à mémoriser, ça a un rapport aussi avec l'espérance. Paul dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, le Père glorieux, vous donne par son Esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste quoi? L'espérance à laquelle vous avez été appelés. » Dans la version Louis II, c'est marqué qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et j'ai été voir, là, pour être sûr, là, dans le grec, c'est vraiment marqué de même. Le sommeur le traduit qu'il illumine votre intelligence, mais dans le grec, c'est vraiment marqué comme ça, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux, le mot grec, c'est ophtalmo. Ophtalmos, je connais ça un petit peu. Les yeux physiques, je connais ça un peu. Mais savais-tu que tu avais des yeux spirituels? Savais-tu ça? Tu as des yeux spirituels, c'est Dieu qui le dit. Et Paul prie que Dieu t'illumine ces yeux-là, qui ouvre les yeux de ton cœur. Pourquoi? Pour que tu comprennes quoi? L'espérance à laquelle tu as été appelé. Pourquoi? Parce que c'est tellement important pour toi et pour moi. C'est une question de survie. On se rappelle la semaine passée qu'Élisée, qui était pris dans un piège, entouré de l'armée syrienne qui avait entouré la ville, il avait prié que Dieu ouvre les yeux à son serviteur qui était effrayé pour qu'il voie les chars de feu et la cavalerie de Dieu qui entourait la ville, n'est-ce pas? Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quels yeux? Les yeux spirituels. Savais-tu ça que tu avais des yeux spirituels? Mais ces yeux-là, il faut qu'ils soient ouverts. Premièrement, en rencontrant Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que de nature, on est tous aveugles spirituellement. Savais-tu ça? On est aveugle, on n'est pas capable de voir. C'est pour ça que quand on parle de Dieu, là, aux gens, généralement, les gens rient. Avez-vous remarqué ça? Moi, si je dis quelque chose par rapport à Dieu, à un de mes patients, bien, souvent, j'ai une réaction que c'est comme si je parlais d'un conte de fées. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Bible que leurs yeux sont aveuglés. Le Dieu de ce siècle, Satan, le Dieu de ce siècle, les a aveuglés. Il faut d'abord que tes yeux spirituels soient ouverts par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut ouvrir ces yeux-là. Mais un coup que ces yeux-là sont ouverts, ben il faut que tu les gardes ouverts. Il faut que tu regardes les bonnes choses avec. Amen. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça, que tu as des yeux spirituels. On a considéré la semaine passée que c'est possible de vivre déjà maintenant les réalités à venir, les réalités en haut. Ces réalités-là où Christ siège à la droite de Dieu dans cette cité qui s'appelle le Jérusalem céleste. Puis on a dit qu'en fin de compte, c'est ces réalités-là qui sont encore plus réelles, si vous me permettez, que les réalités physiques qui nous entourent. Parce que ceux-là vont disparaître. Ces réalités-là, invisibles, spirituelles, là, sont plus réelles que ce qui t'entoure. Et parce qu'elles vont durer. Et qu'est-ce qu'on a vu, c'est que Paul dit, l'auteur des Hébreux dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité qu'on pourrait toucher, le mont Sinaï, cette rencontre où ce que Dieu a donné la loi à Moïse, puis le peuple était dans la crainte, il était effrayé, parce que ça tremblait, ça criait, puis c'était vraiment une rencontre avec un Dieu juste qui est menaçant, là, qui juge le péché. » Non, Paul dit, l'auteur, il dit non. Il dit, non, vous, au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion. On a dit que la montagne, c'est une place où ce que les gens rencontrent Dieu. C'est symbolique, ça représente, on monte vers Dieu, on rencontre Dieu. Puis qu'est-ce qu'il y a sur cette montagne-là? Il y a réellement une cité, la cité de Dieu, qui s'appelle la Jérusalem céleste. Et dans cette cité-là, l'auteur nous dit dans Hébreu qu'il y a des myriades d'anges en fête. Que c'est une cité en fête. Wow! C'est incroyable. Puis on est invité par Dieu à nous approcher de cette montagne-là, de la cité, d'entrer dans la cité. Puis dans la cité, qu'est-ce qu'il y a? On a vu l'assemblée des fils premiers-nés, ce qui veut dire les héritiers du roi. On s'approche de Dieu le juge, mais ce n'est pas par crainte, parce qu'on s'approche aussi de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, dans son sang, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait de la terre « vengeance hein? ». Puis le sang de Christ crie « pardonne, pardonne, pardonne ». Wow! On a vu ça la semaine passée. Et... Ce qu'on a vu la semaine passée, c'est qu'il faut avoir les yeux spirituels sur ces réalités-là d'en haut, de commencer à vivre comme ça. Moi, je vous avoue que ça fait juste commencer dans ma vie, là, de vivre avec les yeux sur ces réalités célestes-là. Mais qu'est-ce que de vivre constamment avec cette vision devant tes yeux produit? Qu'est-ce que ça peut produire dans sa vie? Qu'est-ce que ça peut changer pour toi? Quel impact réel peut avoir l'espérance sur ta vie? Bien, on a vu dans le verset Romains 13, 15, déjà, qu'est-ce que ça produit? Hein? La joie, la paix, on a vu ça? On a vu aussi, quand on recule il y a plusieurs semaines, on a vu qu'on doit être dans l'attente du retour de Christ, puis on a pris l'image du chien Hachi qui attendait son maître au bord du chemin de fer à tous les jours. Hein? Puis on a vu que ce chien-là, on ne pouvait pas le distraire. Puis les gens avaient beau essayer de lui donner des trucs ou de la bouffe, non, lui, il attendait son maître, et c'était comme à l'exclusion de toute autre chose. Hein? Puis on a dit ça, là, c'est comme l'effet sanctifiant, l'effet purifiant d'attendre Christ. Fait que ça aussi, c'est un effet, on voit, et la parole nous dit aussi que dans 1 Jean, celui qui a cet espoir en lui-même se purifie, parce qu'il attend Christ, là. Toutes les autres choses prennent le bord. Fait que ça a un effet purificateur. On a vu ça. Ce matin, j'aimerais examiner davantage avec vous comment la puissance de l'espérance peut transformer nos vies. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir ou de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Nous sommes transformés, comment? En contemplant. En contemplant, ça veut dire de s'arrêter, s'asseoir, puis de regarder la beauté, contempler, considérer. Et c'est comme ça que nous allons être transformés. Rechercher les réalités d'en haut. C'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Impossible sans l'Esprit. Il dit ici, c'est l'œuvre de qui? De l'Esprit. Mais ce matin, on va voir trois choses que l'espérance peut faire si tu t'appliques à faire d'elle, de l'espérance, une réalité fondamentale de ton quotidien. Okay? Une réalité fondamentale de ton quotidien. Si tu fais de l'espérance ça, si tu t'appliques à chaque jour à contempler avec tes yeux spirituels les réalités d'en haut, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Et ici la phrase sommaire, l'espérance que Dieu donne peut transformer ta vie en te donnant la force d'aimer, le courage de pratiquer le bien malgré l'opposition, et la puissance de témoigner pour Christ, car tu vis déjà les réalités des choses à venir. C'est le résumé du message. Ça marche? Tournez avec moi ou pitonnez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Colossiens, c'est une lettre que Paul a écrite à une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Hein? Les réalités physiques disparaissent. Colossé, là, n'existe plus aujourd'hui. J'ai été voir. C'est un tas de ruines, puis il n'y a personne qui a même excavé cette ruine-là encore. Mais la lettre, elle existe encore. Les réalités spirituelles existent encore. Merveilleux, hein? Qu'est-ce que Paul dit aux chrétiens qui, jadis, ont habité cette ville-là? Regardez, Colossiens chapitre 1, verset 3. Paul, il dit, « Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. » En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur Dieu, merci encore une fois, Père, pour ce privilège ce matin d'être ensemble, d'être en ta présence glorieuse. Ta parole nous dit que l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. On veut faire silence, Seigneur, ce matin dans nos cœurs, pour que tu nous parles. repousse toutes les autres voies. En ton nom, Jésus. Viens, Père, nous parler, nous révéler les réalités d'en haut pour la gloire de Christ. Amen. Qu'est-ce que Paul dit ici? C'est que l'espérance peut transformer ta vie par le fait qu'elle te donne la force d'aimer. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Comment l'espérance peut m'aider à devenir quelqu'un de plus aimant? On va regarder ça ensemble, OK? C'est pas évident tout de suite, là, hein, je pense. C'est pas évident tout de suite. Paul rend grâce à Dieu pour les chrétiens à Colosse. Il avait entendu parler de leur foi et de leur amour pour tous les croyants. Il fallait que ça. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Là. Pour que Paul entende ça, il fallait vraiment que ce soit marquant, là. Que ces chrétiens-là soient vraiment, vraiment remplis de foi et d'amour, n'est-ce pas? OK. Il déclare cette foi et cet amour fondés sur leur espérance. C'est-à-dire que leur ferme attente, hein, l'espérance c'est ça, c'est une ferme attente, c'est une certitude d'un avenir assuré. Le corps ressuscité, le royaume glorieux, la présence glorieuse de Dieu. Cette assurance les avait remplis de confiance, de foi et d'amour pour leur prochain. Comment ça? Bien, j'aimerais qu'on considère un exemple avec vous dans la vie de Christ. C'est juste avant qu'il soit trahi au dernier repas avec ses disciples. On voit ce principe se déjouer devant nos yeux dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Et on voit là quelque chose de vraiment, vraiment touchant et de particulier qui vont nous aider à comprendre. Jean nous dit, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jean 13, 1. OK. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et de s'en aller auprès de son Père. Cette petite phrase-là, elle est chargée d'importance pour nous. Parce que ça représente quoi pour Jésus, ça? De quitter cette terre et d'aller auprès de son Père, c'est quoi ça? C'était l'espérance! L'espérance de Christ. Écoute, il va souffrir, là. Il va traverser le pire des supplices. Et il sait tout ça, là. Il sait que son heure. Moi, j'aurais dit, si c'était moi qui écrivais ça, là, j'aurais dit, Jésus, sachant qu'il allait être trahi, sachant qu'il allait subir la flagellation, les horreurs de la croix et la mort, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui est écrit. Jésus, sachant que son heure était venue, pour lui de quitter ce monde et pour s'en aller auprès de son Père. Qu'est-ce que cette espérance-là a produit en lui? La possibilité de s'humilier et d'aimer ses disciples. Qu'est-ce qu'il est marqué? C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'est pourquoi. Ça veut dire quoi, ça? C'est pourquoi? Ça veut dire que la raison pour laquelle il l'a fait vient d'être mentionnée. Et c'est quoi, ça? D'aller auprès de son Père. De quitter cette terre, d'aller auprès de son Père. C'est pourquoi. L'espérance d'aller auprès de son Père a rendu possible à Jésus de s'humilier et d'aimer ses disciples assez pour se mettre dans une position de serviteur pour laver leurs pieds. Et vous savez comme moi que normalement, cette tâche-là, c'était la tâche la plus ingrate qui était réservée aux plus bas des serviteurs qui servaient dans une maison. Quand les gens arrivaient, ils lavaient leurs pieds par politesse, parce que les gens se promenaient en sandales dehors puis ils étaient sales leurs pieds. Dans la version de Louis II, ça marque « mis le comble à son amour pour eux ». J'aime ça, parce que C'est pas comme si Jésus n'avait jamais montré son amour, mais il a mis le comble à son amour. Il a été encore un pas plus loin, en s'humiliant, en lavant leurs pieds, en faisant cette tâche ingrate pour ses, que quelqu'un d'autre aurait dû faire. Là. Ça aurait dû être Pierre, ou Jean, ou Jacques, ou Thomas. Personne ne voulait le faire. Personne ne voulait le faire. On est d'accord avec ça? C'est-tu parce qu'ils ont oublié? Non. Ils savaient, c'était comme se laver les mains avant de manger. Tout le monde faisait ça. Alors, on voit que ce principe de l'espérance rend capable d'aimer, nous donne la force d'aimer. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est que lorsque tu sais que tu vas quitter un endroit pour une place beaucoup meilleure, tu commences à réaliser que tu tiens pas mal trop fort à tes avoirs, à ta petite personne, à ton importance. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. C'est alors que tu peux relâcher ta grippe ce que tu considères comme précieux et devenir moins égocentrique avec tous tes avoirs et toute ta personne. C'est seulement lorsque toi et moi, frères et sœurs, on est convaincus de recevoir quelque chose de beaucoup plus précieux encore que ce qu'on retrouve dans nos mains, qu'on peut commencer à ouvrir, relâcher notre grippe et offrir ce qu'on a aux gens autour de nous. C'est ça la puissance transformatrice de l'espérance. Elle nous donne la force pour aimer. On le voit, des fois, nous, on part en voyage, puis à la fin des voyages, des fois, on a déjà vu ça, des gens laisser des choses dans le pays pour les gens qui sont là. Hein, ça arrive souvent, ça. Ou bien, t'es en revenant dans l'avion, puis ils nous disent, si vous avez de l'argent du pays que vous avez quitté, puis vous voulez, on va passer pour ramasser ça pour la fondation, les enfants, comment ça s'appelle déjà, là? Les rêves d'enfants. Puis, j'ai pas besoin de cet argent-là. Probablement que je ne retournerai plus jamais dans ce pays-là. Fait que, tu vois, les gens, ils donnent cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'ils quittent ce pays-là pour un autre pays meilleur. C'est ça l'idée. Également, l'espérance de la résurrection est une force libératrice qui te permet d'entrer dans la souffrance et la mort des gens que Dieu met sur ton chemin. Là, on a parlé de l'espérance de quitter pour une place meilleure. Là, je vous parle de l'espérance de la résurrection, ta résurrection personnelle à toi. Là. On a vu ça dans la première section. Sans cette espérance de la résurrection, tu seras incapable d'entrer dans la souffrance et la mort même des gens qui t'entourent, car leur situation te confrontera à ta propre frayeur de la mort. Dans la dernière année, j'étais en train de lire un livre que Wally Danbrook, la femme de Frank, m'a prêté. Ça s'appelle Le guérisseur blessé. Ça a été écrit il y a très longtemps par un pasteur américain. Mais il dit ceci, c'est Henry Nguyen. Il dit « Car l'espérance rend possible de regarder au-delà de la réponse à nos désirs urgents et des souhaits pressants, et offre une vision qui dépasse la souffrance humaine et même la mort. L'espérance nous empêche de nous agripper à nos avoirs et nous rend libres pour sortir de notre sécurité, pour entrer dans le territoire apeurant de l'inconnu. Cela peut sonner romantique, mais lorsqu'un homme est en mesure de quitter son lieu fort pour rejoindre son prochain qui vit dans la peur de la mort et pour l'accompagner et l'attendre là, alors cela représente un acte de leadership difficile. C'est l'acte d'un disciple qui suit le chemin dur et rocailleux du Christ, qui est entré dans la mort dénué de tout sauf l'espoir. Wow! C'est-tu beau, ça? Sauf l'espoir. Y a-t-il quelqu'un dans ton entourage, mon frère, ma sœur, qui est dans la souffrance, auprès duquel le Seigneur te demande d'aller, d'entrer dans sa souffrance, ou d'accompagner même dans la vallée de l'ombre de la mort? Il te sera impossible sans affronter ta propre mort et sans avoir l'espérance d'avoir une résurrection. C'est ce que l'espérance peut produire dans ta vie. La conviction que ce n'est pas la fin, qu'un meilleur avenir, que ton corps va ressusciter, va te permettre d'aimer les gens alentour, de rentrer dans leur souffrance, d'entrer dans leur mort et de les accompagner. On est en train de considérer la puissance transformatrice de l'espérance. On a vu la force d'aimer. Deuxièmement, la force de pratiquer le bien malgré l'opposition. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, 10, « En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis, quoi? Notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui, qui placent leur confiance en lui. » Vois-tu le lien ici que Paul fait entre l'espérance et la force de pratiquer le bien? Il dit, si nous donnons du mal, si nous luttons, c'est parce que, encore une fois, la raison est quoi? L'espérance. L'espérance. C'est l'espérance qui fait que Paul peut se donner tant de mal, il peut lutter contre le mal, il peut continuer à faire le bien, parce qu'il y a l'espérance dans un Dieu vivant. Et qu'est-ce qui caractérise ce Dieu vivant-là dans le verset? Il est le bienfaiteur de tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, il fait du bien à tous les hommes, mais aussi qu'il récompense. Il récompense le bien et punit le mal. Pas immédiatement, mais éventuellement. Éventuellement. Les gens se posent souvent la question, qu'est-ce que ça me donne d'être honnête ou de respecter la loi? Hein? Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je l'ai entendu souvent. Si personne ne me voit, à qui je fais mal? S'il n'y a jamais de conséquences ou de récompenses pour mes actions, je peux m'en permettre comme tout le monde, non? Tout le monde s'en permet, tout le monde fait ça. On voit que ça, c'est des réflexions qui sont dénuées de toute espérance dans un Dieu vivant. Dieu n'est pas dans le portrait. Mais maintenant, si tu es convaincu qu'il y aura une résurrection des morts et qu'il y aura un jugement, comme on a vu dans cette série, si tu as la ferme attente de paraître devant le roi de l'univers et de te trouver devant lui, irréprochable et exultant de joie à cause du sang de Christ versé pour toi, ça ne peut pas faire autrement que de t'encourager à pratiquer ce qui est bien, bon, juste, acceptable à Dieu, pas vrai? À pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu, comme dit la chanson. Vous vous rappelez de cette chanson-là? Qu'est-ce que le Seigneur demande de toi? C'est que pratique la justice, que tu aimes miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est quoi la référence, Richard? Michée 4, 6. Merci. Paul dit aussi dans 2 Thessaloniciens, il dit, « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et qu'il vous accorde la force de pratiquer le bien en acte et en parole. » Vois-tu le lien encore de l'espérance? La puissance qu'a l'espérance de t'amener à pratiquer le bien. Parce que Dieu t'a donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Oui? OK, Michée 6-8, merci pour la référence. On savait que c'était dans Michée, là. OK, on revient à 2 Thessaloniciens. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit que Dieu nous a donné une grâce, un cadeau. C'est quoi ce cadeau-là? Une source éternelle de réconfort. Et une bonne espérance. Et cette chose-là, c'est comme deux envers la médaille, c'est deux choses qui parlent de la même chose, dans le fond. Sont indispensables pour pouvoir pratiquer le bien, réellement. Pour la force de pratiquer le bien en acte et en parole. Petite question pour toi, quelle action juste, équitable, ou de compassion, le Seigneur t'appelle-t-il à poser et que tu luttes à faire? Réfléchis dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Tout le monde autour de toi font telle ou telle chose, mais toi, puisque le Seigneur t'a donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance, il t'appelle à marcher devant sa face et à pratiquer ce qui est bien, juste et véritable. Qu'est-ce qui t'appelle? Quelle action? Je sais que le Saint-Esprit va faire monter quelque chose à ton esprit. Alors, on considère la puissance transformatrice de l'espérance. Le troisième et dernier point, c'est quoi? C'est la force de témoigner pour Christ. Pierre dit dans 1 Pierre 3, 13, 16, « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? » Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Et si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. On vient de parler de pratiquer le bien et que ça peut nous amener à souffrir. Mais Pierre, il dit, regardez, même si vous souffrez pour faire le bien, vous êtes heureux. Et là, ça va vous donner quoi? L'occasion de témoigner. De témoigner de votre espérance. Témoigner de votre espérance. Il faut drôlement, comme on a déjà vu dans la série, il faut drôlement que l'espérance déborde de ma vie, de mon cœur, là, pour que les gens me demandent, « Hey, comment ça se fait? » Fait que c'est là que je me rends compte qu'il faut que j'applique cette notion de vivre avec les yeux en haut, de vivre, de rechercher les réalités, de vivre en contemplant le Christ pour que cette espérance remplisse mon cœur, transforme mon caractère pour que les gens me disent « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Dernièrement, j'ai terminé de lire le livre des Actes, puis ça m'a frappé lorsque l'apôtre Paul se fait arrêter par les Juifs et les Romains, pardon, et qui est contraint de se défendre devant, ben, premièrement, le Sanhédrin et après ça, devant deux gouverneurs romains. On retrouve ça dans Actes 24. Ça m'a frappé, ça m'a saisi parce que la façon que Paul s'y prend, c'est que pour sa défense, il va commencer par quel sujet? L'espérance. Wow! L'espérance! Regardez, Acte 24, 14 à 16. Paul dit, il est en train de parler à Félix, le gouverneur, « Certes, je reconnais volontiers devant toi, je sers le Dieu de mes ancêtres suivant la voie qu'ils qualifient de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et cette espérance est aussi la leur, que les morts justes et pécheurs ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable devant Dieu que devant les hommes. Ici, la puissance de l'espérance a poussez Paul à avoir une vie irréprochable, à pratiquer le bien, comme on a vu tantôt, hein, c'est ça qu'il dit. Et puis, il se sert de cette espérance-là comme tremplin pour évangéliser, pour parler à Félix de Dieu, de Christ. Voyez-vous? Il parle de l'espérance qu'il a, qu'il habite. Dans Actes 26 aussi, juste deux chapitres plus loin, c'est un nouveau gouverneur qui arrive sur scène, Festus. Et Paul est encore accusé devant Festus, qui a fait appel aussi au roi Agrippa pour l'aider. Le roi Agrippa étant un juif. Paul est devant ces deux-là, et devant les chefs religieux de toute la nation d'Israël. Imaginez la scène, là. Tu as Paul tout seul, là, sur le pavé, puis on s'imagine sur une plateforme, là, sûrement, là. Tu as le gouverneur romain Festus, tu as le roi Agrippa, puis tu as tous les chefs religieux, là. Ça, c'est une scène intimidante. Mais Paul est rempli d'assurance pour témoigner de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a cette espérance en lui, l'espérance de la vie éternelle. L'espérance lui donne la force pour témoigner. Regardez, chapitre 26, au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit ici? « Maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Et c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation par les Juifs au roi. Et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter les morts? » Et là, il commence à raconter son témoignage, comment il a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas et comment ça l'a transformé. L'espérance peut nous donner la force pour témoigner avec ardeur pour Christ. On a vu ce matin la puissance transformatrice de l'espérance. L'espérance, cette ferme assurance d'un avenir certain qui est nourrie par la contemplation de la gloire de Christ et de son royaume à venir. Il faut que tu prennes le temps, frères et sœurs. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu te mettes en présence de Dieu, que tu contemples Dieu, que tu lui demandes, « Révèle-moi cette espérance, Père. Montre-moi par ton esprit à quoi consiste cette espérance à laquelle je suis appelé. » Plus tu contemples le Seigneur glorieux sur son trône, plus ton espérance va devenir une réalité puissante, transformatrice dans ta vie. La question qui se pose à chacun de nous est la suivante. Qu'est-ce que tu contemples avec les yeux de ton cœur? À quoi passes-tu ton temps à contempler? Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Si tes pensées sont remplies de choses de ce monde, ton espérance va tranquillement s'éteindre et tu n'auras pas la force d'aimer, de pratiquer le bien ou de témoigner. Désolé. C'est tellement essentiel, là. C'est une partie intégrante, essentielle de ta vie chrétienne. Si tu fais de l'espérance une préoccupation, si tu cherches les réalités d'en haut, les choses d'en haut, où Christ siège à la droite de Dieu, tu seras rempli de confiance, de force pour aimer, pratiquer le bien et témoigner avec confiance comme Paul devant les magistrats romains et même l'empereur. Fait que l'espérance que Dieu donne peut transformer ta vie en te donnant la force d'aimer, le courage de pratiquer le bien malgré l'opposition et la puissance de témoigner pour Christ, car tu vis déjà la réalité des choses à venir. Amen. Je vais fermer le micro. Puis